pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. La sélection du Reader Digest avait diffusé un triple CD il y a quelques décennies déjà dans la série Étoiles du Jazz. Pour Sidney Bechet, c'était évidemment extraordinaire, agrémenté d'un petit livre passionnant signé par Alain Granat. Remonte très loin. Elle remonte bien plus loin que ce qui me concerne personnellement. Ma musique aussi. Je l'ai héritée tout comme j'ai hérité de mon père les histoires qu'il me contait. Sidney Bechet, dans son autobiographie « La musique, c'est ma vie », publiée un an après sa mort en 1960, tente ainsi de définir l'âme de son art. Cette âme, c'est celle du peuple noir, déporté d'Afrique sur le continent américain. En nous contant l'histoire de son grand-père paternel, Omar, homme possédé par la musique, Bechet témoigne aussi de la tragédie des esclaves du Sud et s'empresse d'ajouter « Toute la musique que je joue vient de tout ce qui se passait du temps de mon grand-père. » Tombé amoureux d'une jeune esclave prénommée Marie, Omar fut traqué, puis abattu à cause du maître de cette dernière, fou de jalousie, qui fit croire que l'esclave avait violé sa fille. Ce planteur d'origine normande se nommait Bechet. Enceinte, la jeune femme donna naissance à un garçon prénommé Omar, comme son père. Pris de remords, le maître de Marie demanda à la jeune esclave de donner son nom de famille à l'enfant, à titre de réparation. Thank you. Après la guerre de sécession, Marie fut émancipée par ce dernier, qui prit toutes les dispositions pour qu'elle puisse élever son fils dignement. Le petit garçon fréquenta une école payante pour les blancs et les gens de couleur, apprenant à parler parfaitement le français comme l'anglais. Fou de musique, mais piètre instrumentiste, Omar Béchette devint bottier, façonnant pour la haute société de la Nouvelle-Orléans de somptueuses chaussures. Homme élégant, danseur exceptionnel, il rencontra la future mère de Sydney lors d'un bal. Cette femme, que son fils décrit ainsi, « si claire, c'est à peine si on pouvait la prendre pour une femme de couleur », aura également une influence déterminante sur la vocation de son fils. Les Béchettes sont véritablement épris de musique. Sydney est le 7e enfant de la famille, qui en compte 9. En ce début de siècle, la Nouvelle-Orléans résonne des parades que le bambin suit joyeusement. Béchette explique parfaitement l'essence de ce qu'on nommera plus tard le jazz New Orleans ou Dixieland. « Tous ces gens de couleur avaient été des esclaves, dit-il. Ils avaient encore alors plus besoin de musique que de nos jours. C'est comme s'ils essayaient de trouver dans cette musique comment utiliser au mieux cette liberté qu'ils venaient de conquérir. » Béchette, Léonard, dont Sydney restera très proche toute sa vie, joue du trombone en amateur. Dentiste de profession, il forme un petit orchestre, le Silver Bells Band, et apprend également la clarinette. Son nouvel instrument est soigneusement enfermé à clé dans une commode. Mais Sydney, qui a alors 6 ans, est fasciné par l'objet. S'emparer de la clé est un jeu d'enfant, et le voilà sous le porche de la maison familiale, s'entraînant tant et si bien qu'il arrive rapidement à jouer un morceau au titre prémonitoire. Je ne sais où je vais, mais je sais que je suis sur mon chemin. Sa mère le surprend un après-midi alors qu'il répète le morceau, et plutôt que de le gronder pour avoir subtilisé l'instrument, lui demande de jouer le soir même devant toute la famille. Léonard Béchette est stupéfait, admiratif, et il offre sa clarinette à Sydney. « prend aussitôt des cours avec Georges Baquet, un remarquable clarinettiste créole, qui le prend sous son aile. Et dès l'âge de 10 ans, notre jeune prodige joue dans différents orchestres de la Nouvelle-Orléans, dont celui de King Oliver, vous vous rendez compte, à 10 ans. Et dans l'Eagle Orchestra, formation mythique de l'époque, créée par un personnage légendaire, Buddy Bolden. Joueur de cornet, Buddy est alors le musicien le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans. Grand amateur de femmes, il a l'habitude de brûler la chandelle par les deux bouts. Quand il descendait dans la rue, raconte Béchette, non sans humour, une femme portait sa trompette, une autre sa montre, une troisième son mouchoir. Et il y avait peut-être une autre qui n'avait rien apporté, mais elle était quand même là avec l'espoir de se rendre utile. Bolden, alcoolique invétéré, sera interné dans un asile psychiatrique pour démence de type paranoïaque en 1907 et il y décédera, hélas, en 1931. Oublié de tous, sans jamais recouvrer la raison et sans même se souvenir qu'il avait été le musicien le plus adulé de sa génération. La Nouvelle-Orléans peut se transformer en enfer. La ville reste néanmoins le paradis des musiciens qui s'expriment aussi bien dans les petites formations du quartier chaud, de Storyville, au son du ragtime, que dans les parades qui défilent sur Bourbon Street. Cet apprentissage est aussi celui de la vie, une vie joyeuse d'adolescent dans un endroit baroque et haut en couleurs qu'est la Nouvelle-Orléans, mais avec parfois un fort goût d'amertume, marqué par la haine que les Blancs nourrissent à l'égard des nègres et autres basanés. Un soir que Béchette se promène avec un ami mexicain quelque peu éméché, les deux adolescents sont arrêtés par des policiers qui passent à tabac son compagnon, le laissant ensuite meurtri dans une cellule en compagnie de Sidney et d'autres prisonniers. C'est pendant que je suis dans cette prison que je joue le premier blues de ma vie avec un tas de gars qui chantent autour de moi, de voir quelqu'un qui a été battu et qui a faim, dont la figure est pleine de sang. Je n'ai jamais rien oublié de ce qui s'était passé cette nuit-là. Et quand je jouais plus tard, bien plus tard, je ne faisais que raconter ces blues aux gens venus nous entendre jouer. Dès 1917, un grand nombre de musiciens de la Nouvelle-Orléans quittent la ville pour se diriger vers le nord du pays, plus particulièrement à Chicago. Béchette suit le mouvement, se produisant dans divers cabarets de la ville. Il est remarqué par un chef d'orchestre, Will Marion Cook, qui l'engage dans sa formation, le Southern Syncopated Orchestra. L'histoire que raconte Béchette à propos de ce musicien est édifiante et permet de comprendre aisément pourquoi tant d'instrumentistes de couleur se sont vus interdire l'accès au monde de la musique classique et évoluèrent vers le jazz et la musique de danse. Violoniste autodidacte, Cook fut remarqué à l'âge de 16 ans par un professeur qui, au vu de ses exceptionnelles qualités, lui conseilla de prendre des leçons pour parfaire sa technique. Il le recommanda à Dvorak, le célèbre compositeur de la Symphonie du Nouveau Monde, alors titulaire d'une chaire d'enseignement de violon au Conservatoire de Prague, qui le reçut et accepta de le prendre dans sa classe avec des élèves âgés de 10 ans. Cook retourna aux États-Unis, s'inscrivit à un concours de violon afin d'obtenir une bourse, mais échoua. À la fin du concours, l'un des membres du jury lui avoua qu'il aurait eu le premier prix s'il n'avait pas été noir. Cook brisa son violon et ne joua plus jamais, se contentant de composer et de diriger des orchestres de danse. Strike Up the Band, l'un des morceaux que je préfère, et Béchette, et bien sûr, toujours à la clarinette. De l'orchestre de Will Cook que Béchette commence à s'intéresser au sax soprane, qui deviendra plus tard son instrument de prédilection. La sonorité flamboyante et chaleureuse du soprano, son volume ample et son registre plus étendu, notamment dans les aigus, convenaient à son lyrisme exubérant. Il en deviendra le maître incontesté. Avec « Quelle est cette chose nommée amour ?» de Cole Porter, Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré par Pierre Écart, pour vous, dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.